Vous écoutez, on lit pour vous.
Vague de désinformation sur la pilule contraceptive, un texte d'Olivier Picard, paru le 26 juin 2025, dans la presse. L'OMS a annoncé que la pilule était aussi nocive, aussi cancérogène que le tabac, l'alcool et l'amiante. L'influenceuse française, Lena Viva, s'adressait ainsi à ses 8 millions d'abonnés le 19 juin 2025. Une semaine plus tard, la publication avait généré plus de 576 000 mentions « j'aime », 225 000 partages et 6 400 commentaires. Quelques jours après cette mise en ligne, l'influenceuse a dû publier un rectificatif car ses propos étaient manifestement inexacts. Mais Lena Viva est loin d'être la seule à propager de fausses informations sur la pilule contraceptive sur les réseaux sociaux. Une équipe de chercheurs américains s'est tout récemment penchée sur cette vague de désinformation en scrutant les vidéos trouvées sur TikTok doté du mot « clic » hashtag « hormonal birth control ». Sur 100 vidéos TikTok analysées, 20 vidéos étaient conçues dans le but d'éduquer le public. Sur ces 20 mêmes vidéos, 11 comportaient des informations trompeuses, inexactes ou non fondées. Cette étude a été présentée en mai 2025 à Minneapolis, au congrès de l'American College of Obstetricians and Gynecologists. Stacy, à commercial I-M-S-T-E-S-S-Y, une naturopathe française qui possède une entreprise commercialisant des tisanes pour soulager les crampes menstruelles, propage le même type d'informations. 3 millions de vues sur sa vidéo publiée mardi dernier. Le texte affiché dans sa vidéo est alarmant. L'OMS a classé la pilule comme cancérogène groupe 1 au même niveau que le tabac et l'alcool. Dans les faits, ces informations manquent de nuances. Oui, l'OMS a effectivement classé la pilule dans le groupe 1 des agents cancérogènes en 2005. Mais le consensus actuel, c'est que s'il y a une augmentation des risques de cancer, elle est minime, explique la docteure Geneviève Roy, gynécologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, et professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. La population qui prend la pilule est assez jeune et en âge de reproduction. Or, le risque de cancer global à cet âge est faible, ajoute la gynécologue spécialiste. Chez les femmes de 35 ans et moins, les plus grandes utilisatrices de la pilule contraceptive, leur risque de cancer du sein engendré par la prise du contraceptif oral est de 1 cas de plus sur 50 000, un risque absolu infime, dit la docteure Geneviève Roy. Le tabac, qui est également classé dans le groupe 1 des agents cancérogènes de l'OMS, présente, en comparaison, un risque bien plus important pour la santé. Les personnes qui fument sont 25 fois plus susceptibles de mourir du cancer du poumon que celles qui n'ont jamais fumé, indique Santé Canada sur son site web. L'usage de la pilule pourrait entraîner une très légère augmentation du risque du cancer du sein, peut-être aussi une légère augmentation du cancer du col de l'utérus et du foie, convient la docteure Roy, s'appuyant sur des études publiées dans les 50 dernières années. Cependant, la prise de la pilule peut aussi diminuer certains types de cancers. Il est scientifiquement prouvé et vérifié qu'il y a une diminution très importante du risque de cancer de l'endomètre, la muqueuse qui tapisse l'utérus, et une diminution très significative du risque de cancer de l'ovaire, ajoute la gynécologue. Prescription en baisse. Cette vague de désinformation sur les médias sociaux survient au moment où de plus en plus de Québécoises abandonnent la pilule, selon la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ. En 10 ans, les ordonnances et les renouvellements d'ordonnances de contraceptifs oraux ont baissé de près de la moitié au Québec. Alicia Fontaine-Fortin, 23 ans, qui vit à Val-d'Or, a été secouée par ce qu'elle a vu sur TikTok. « Je trouve vraiment, dit-elle, que les vidéos en ce moment sur TikTok sont assez alarmantes pour des gens qui ne se renseignent pas, qui ne prennent pas la peine d'aller vérifier l'information. » Ça peut faire peur. La jeune femme a récemment subi un retrait de cellules cancéreuses au col de l'utérus et est en ce moment en attente d'une opération pour faire retirer une tumeur bénigne au sein. Je ne cherche pas de coupable, mais je me pose des questions, surtout pour mon sein, dit Madame Fontaine-Fortin. Mais ces problèmes de santé et les questions qu'il suscite ne l'empêchent pas de continuer à prendre la pilule contraceptive. « Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer parce que ça m'aide vraiment au niveau de mes hormones », explique Alicia Fontaine-Fortin. « En plus de prévenir les grossesses, le médicament diminue aussi son acné. » La prise de la pilule contraceptive demeure un excellent moyen de prévenir la grossesse, souligne la docteure Roy, même si elle n'est pas sans risque ni contre-indication. C'est ce qui explique les grands feuillets qui accompagnent les ordonnances. Le risque infime de phlébite, obstruction d'un vaisseau sanguin par un caillot, en fait partie. Le risque de faire une thrombose, une phlébite, lorsqu'on est enceinte, est beaucoup plus important, en fait le double, sinon le quadruple de ce que c'est quand on prend la pilule, précise la docteure Roy. C'était « L'industrie alimentaire tourne au naturel », un texte d'Olivier Picard, paru le 26 juin 2025 dans la presse.
Taper dans le ballon pour oublier le bruit des balles. Un texte de Paul Boyer, paru le 1er août 2025 dans la presse. En Ukraine, environ 80 000 amputations auraient été pratiquées depuis l'offensive russe de 2022. Pour se relever physiquement et psychologiquement, certains ont enfilé prothèses et maillots de soccer. De Lviv à Kharkiv, les terrains de foot ukrainiens se remplissent malgré les sirènes quotidiennes. Le ciel bleu et les douces températures d'été feraient presque oublier les récentes nuits d'angoisse ponctuées de sirènes et d'alertes de drones à Lviv, en Ukraine. Sur le terrain du stade du club historique du Pokrova AMP, l'équipe de joueurs amputés s'entraîne sous le regard assidu de leur entraîneur. Au coup de sifflet, ils s'élancent balle au pied, zigzaguant habilement à cloche-pied entre les obstacles. Ils utilisent deux béquilles pour se maintenir en équilibre, une technique très exigeante pour les avant-bras. Les règles du soccer pour amputés sont simples. Tous les joueurs doivent avoir perdu une jambe, sauf les gardiens qui doivent avoir un bras en moins. Les béquilles ne doivent pas toucher la balle, sous peine de disqualification. Un attaquant, amputé de la jambe droite, fonce vers le gardien avant de faire une magnifique talonnade. But en pleine lucarne. En guise d'applaudissement, le son des béquilles entrechoquées résonne en rythme. Grâce au ballon rond, leurs visages se détendent. Ils redonnent du sens à leur vie. Tu les autorises à se reposer, lance un curieux derrière les grillages. Ils ne sont plus sur le front, enfin, répond en rigolant l'entraîneur Nazar Ruzetskiv. Ce jeudi de la mi-juillet 2025, un entraînement exceptionnel réunit plusieurs équipes du pays. Ils sont originaires de Lviv, Kiev, Kharkiv ou Zaporizhzhia. Mais tous se retrouvent autour de leur passion pour le soccer. La plupart d'entre eux sont d'anciens soldats qui ont perdu un membre au combat. Quelques 80% d'entre eux ont été blessés au front. Cela leur fait du bien, je le vois dans leurs yeux. Le soccer leur fait oublier le temps d'un instant. La guerre et le handicap, précise l'entraîneur. Je criais comme un animal. Ancien soldat, Valentin Gurien vient de fêter ses 47 ans. Ce père de deux enfants a été blessé à Zaporizhzhia le 10 octobre 2024. Lors d'une patrouille, un tireur embusqué le touche à la jambe gauche, laissant une plaie béante de 10 cm. J'avais tellement mal. Je criais comme un animal. J'ai demandé à l'un de mes camarades qu'il me tire une balle au milieu du front. Cela me faisait trop souffrir, lance le défenseur du Pokrova AMP en ajustant sa prothèse dernier cri 3R80, un modèle à 23 000 $ l'unité. Après son amputation, il est rapatrié à Lviv, sa région d'origine. Il entend parler d'une équipe en cours de création. Sa curiosité est piquée, mais un doute subsiste. Mon âge. Vous rigolez, je ne suis plus tout jeune, blague-t-il. Ancien sportif, il tente le coup et réalise qu'il se déplace très rapidement sur ses béquilles. Cheveux courts, yeux marrons et regard vif, il tient à montrer une photo de lui valide sur ses deux quilles. En treillis militaire, arme en bandoulière, on l'aperçoit tout sourire en compagnie de ses frères d'armes. Un souvenir de son ancienne vie. Alexander Ovoruka, également joueur avec le Pokrovra AMP, tourne habilement sur lui-même à cloche-pied. Après qu'il eût été blessé à Vovchank, près de Kharkiv, les médecins parviennent miraculeusement à sauver sa jambe droite, mais doivent amputer la gauche. S'en suivent des mois de rééducation au centre Superhumans de Lviv, spécialisé dans la pose de prothèses. Selon l'Institut, en mai 2025, au moins 80 000 personnes auraient perdu un membre dans le conflit ukrainien. C'est autant que pendant la Première Guerre mondiale. « Jouer me fait du bien, je revis », dit en souriant Alexander en s'appuyant le front en sueur. Les incassables. Au loin, un tacticien se distingue par sa qualité de dribble et de jongle. Sacha Tebenkov a une particularité. Il est amputé des deux jambes. Ne pouvant pas intégrer une équipe, car il faut avoir une jambe valide, il a pris la casquette d'entraîneur de l'équipe Neslamni Kharkiv, littéralement. Les incassables. À 27 ans, cet amoureux du ballon rond, depuis qu'il est enfant, est également un fervent patriote ukrainien. Collier de barbe et tatouage d'armes et de symboles aux couleurs de l'Ukraine, il s'engage dans l'armée en 2019. Depuis, il a été de tous les fronts avant d'être touché de plein fouet lors d'une patrouille de reconnaissance dans la région de Zaporizhzhia. Notre véhicule blindé a roulé sur une mine. Quatre d'entre nous ont survécu. Mon chauffeur est mort sur le coup. Mes jambes ont été broyées, découpées. Je me suis évanoui, puis réveillé à l'hôpital, les jambes coupées, confesse-t-il en grimaçant. Les premiers mois sont extrêmement durs, ponctués de douleurs fantômes. C'est une bataille mentale. Il faut les accepter, sinon lutter vous épuisera, dit Sacha Tebenkov. Amputé des jambes en dessous des genoux, il a récemment fait réaliser de nouvelles prothèses, en carbone cette fois, plus performantes. En tant que coach, il transmet sa passion du ballon rond à ses joueurs. « J'ai gagné des batailles, maintenant ce sera des matchs », chuchote-t-il après un clin d'œil. un premier championnat. Au-delà des entraînements, les 19 équipes de joueurs amputés que compte le pays s'affrontent en tournoi dans le cadre de la League of Mighty, la Ligue des Braves, compétition organisée à l'initiative de la Fédération ukrainienne de football, FUF. La Ligue travaille en étroite collaboration avec le centre Superhumans, dans lequel l'entraîneur Nazar Ouzetskiv, du Pokrova AMP, se rend régulièrement pour recruter de futurs joueurs. Mes joueurs sont des survivants. Ils ont la rage au ventre. Ils ont hâte d'affronter d'autres équipes, dit Nazar Ouzetskiv. À l'automne 2025, le premier championnat ukrainien de footballeurs amputés aura lieu, l'occasion pour les 19 équipes du pays de s'affronter officiellement. Aujourd'hui, le ciel s'assombrit au-dessus du stade. Pas de quoi effrayer les joueurs qui continuent de courir balle au pied pour oublier, le temps de quelques instants, leur handicap et leur traumatisme. C'était Taper dans le ballon pour oublier le bruit des balles, un texte de Paul Boyer, paru le 1er août 2025 dans la presse.
Google n'est pas un office de tourisme. Un texte d'Émilie Marcil, paru le 31 juillet 2025 dans Le Devoir. Longtemps, les bureaux d'information touristique ont été les symboles de fierté locale. En plus d'accueillir les visiteurs, ils avaient pour mission de valoriser le territoire, de présenter de façon objective l'ensemble de l'offre touristique locale et de répondre aux besoins des voyageurs comme des résidents. Cette mission est toujours aussi pertinente, mais sa mise en œuvre doit être repensée à la lumière de profonds changements dans les comportements de consommation et d'information touristique. Aujourd'hui, la majorité des voyageurs planifient leur séjour à partir des premières suggestions qui leur apparaissent sur le web. Moteurs de recherche, plateformes de réservation, algorithmes des réseaux sociaux et désormais des outils conversationnels comme ChatGPT façonnent les itinéraires bien avant que quiconque ne mette le pied dans un village. Cependant, cette logique d'exposition numérique n'est pas impartiale. Les résultats sont souvent influencés par des intérêts commerciaux, des campagnes de marketing bien financées ou des partenariats avec des influenceurs. Résultat, les entreprises qui ont les moyens d'acheter de la visibilité sont surreprésentées et les plus petites, souvent plus authentiques, enracinées et distinctives, sont invisibilisées. Ces jours-ci, l'utilisation du web pour la planification de voyages fait l'objet de nombreuses discussions dans les médias. Mais derrière les questions techniques se cache un enjeu bien plus fondamental, l'éthique. Qui contrôle l'information touristique? Qui y a accès? Et au profit de qui circule-t-elle? Lorsque la promotion du territoire est laissée uniquement aux logiques de marché, on met à mal la diversité de l'offre touristique, on homogénéise l'expérience et on creuse l'écart entre les entreprises qui peuvent se payer de l'attention et celles qui ne le peuvent pas. Depuis quelques années, plusieurs associations touristiques au Québec constatent une baisse importante de la fréquentation de leurs bureaux d'information, en particulier ceux situés le long des grands axes routiers. Conçu à une époque où l'automobile était reine et la signalisation rare, ces bureaux répondaient à un besoin clair, celui d'orienter le voyageur sur la route. Mais les usages ont changé. On ne consulte plus une carte papier pour trouver une auberge. On demande à Google où dormir et à Instagram où manger. Ce changement de paradigme nous appelle à repenser en profondeur la fonction et l'emplacement des lieux d'accueil touristiques. Un peu partout au Québec, des projets pilotes émergent pour repenser l'accueil touristique. Certains offices misent sur des bornes numériques accessibles en tout temps. D'autres privilégient des formes mobiles et éphémères installées dans des lieux de passage naturels, cœur de village, marché public ou festival, afin de préserver un lien direct avec l'humain dans un cadre physique et accueillant. L'objectif est clair, aller à la rencontre des visiteurs plutôt que d'attendre qu'ils viennent à nous. Cette mobilité permet non seulement la rencontre des visiteurs là où ils sont, mais aussi la recréation de liens avec les communautés locales, souvent négligées dans les stratégies de promotion touristique. Car l'accueil touristique ne concerne pas que les touristes. Il s'adresse aussi à ceux qui vivent sur le territoire et qui en deviennent, souvent, sans le savoir, les premiers ambassadeurs. L'enjeu est donc double : assurer une meilleure visibilité à l'ensemble de l'offre tout en ramenant la mission de l'accueil au cœur des dynamiques humaines et territoriales. Voyager de façon plus responsable, ce n'est pas seulement limiter son empreinte carbone, c'est aussi réfléchir à la circulation de la richesse. Où va notre argent lorsque nous voyageons? À qui profite-t-il réellement? Comment s'assurer que les retombées bénéficient aussi aux petites entreprises, aux producteurs locaux, aux artisans, à ceux qui tissent le caractère vivant d'un lieu? Ce travail de médiation et de représentation ne peut être laissé au hasard des moteurs de recherche. Il doit être confié à des experts du territoire. Le ministère du Tourisme et les associations touristiques régionales disposent d'une connaissance fine des réalités locales, des écosystèmes et des réseaux d'acteurs. Ce sont eux qui peuvent assurer une information impartiale, à jour et diversifiée, une information au service de l'ensemble du territoire et non seulement de ceux qui crient le plus fort ou qui paient le plus cher. Dans un monde saturé d'images et de recommandations payantes, le rôle des bureaux d'information touristique est plus important que jamais. Mais pour qu'il demeure pertinent, il doit s'ancrer dans les nouvelles réalités. Collectivement, il faut réimaginer l'accueil non pas comme un guichet, mais comme un acte relationnel, un levier de justice économique et un outil de développement territorial. Cela étant dit, merci d'éteindre votre portable. C'était « Google n'est pas un office de tourisme », un texte d'Émilie Marcil paru le 31 juillet 2025 dans Le Devoir.
Des élèves de Nelson peignent une murale pour défendre les droits d'ESLGBTQIA+. Un texte de Suzanne Lienhardt, paru le 14 juin 2025 dans La Source. Pour cacher un graffiti homophobe sur son mur, l'École francophone des sentiers alpins, à Nelson, vient de terminer une peinture murale aux couleurs de la communauté 2SLGBTQIA+. À son arrivée à l'école, il y a 2 ans, la directrice Sylvie Mazerol se souvient encore des minutes qui ont défilé avant l'arrivée des premiers élèves. Elle venait de découvrir avec effroi un graffiti explicitement homophobe à l'entrée de son école. « Ma première réaction a été de protéger les élèves pour qu'ils ne le voient pas. Je suis allé chercher de la peinture en aérosol et j'ai fait des cœurs et des symboles de paix pour cacher le graffiti », raconte-t-elle. Madeleine Arsenault, aide pédagogique spécialisée, qui accueillait le premier autobus d'élèves au moment des faits, a ensuite proposé à la directrice de monter un projet artistique positif à l'image des valeurs de l'école pour recouvrir le mur. Sylvie Mazerol, emballée par cette idée, avait déjà un nom d'artiste en tête. 2 ans plus tard, l'école inaugure sa nouvelle fresque murale, réalisée avec l'aide des élèves du secondaire de Nelson, l'école francophone publique dont Sylvie Mazerol est également à la direction. 8 jours de travail. La directrice de l'école a choisi l'artiste francophone Bambi, aussi connue sous le nom de Claudia Simon, après avoir repéré l'une de ses œuvres créées durant le Nelson International Mural Festival sur le site du marché fermier de la ville. La muraliste d'origine québécoise, aujourd'hui établie à Revelstoke, a passé 8 jours sur ce projet. Bambi a réalisé toutes les étapes de préparation. Enlever la végétation, rincer le mur et tracer les formes. J'ai eu carte blanche pour transmettre le style de vie de Nelson et ses paysages. Ça ne devait pas forcément être associé à la culture de SLGBTQIA+, mais ça devait être joyeux, explique l'artiste. Aujourd'hui, des nuages, des arcs-en-ciel et des émoticônes aux couleurs éclatantes et aux formes arrondies s'entremêlent sur plusieurs mètres. Une vingtaine d'élèves du secondaire l'ont aidé à peindre, accompagnés par leur correspondant français venu du Mans, dans l'ouest de la France. Ça a été l'une des trois plus belles journées de ma carrière. Il faisait beau et tout le monde avait le sourire. Les élèves de l'élémentaire et de l'intermédiaire ont même pu donner des coups de pinceau. En tant que membre de la communauté queer, c'était une vraie blessure et c'est devenu une joie, décrit la directrice de l'école. Résister à la haine par la joie. Le projet a nécessité la tenue d'une levée de fonds de plus de 6 000 $. Pour une petite école comme la nôtre, ça représente un quart du budget annuel, pointe Sylvie Mazerolle. En plus d'une aide financière du Conseil scolaire francophone, une subvention passe-part portée par l'Association des francophones de Kootenays West a permis de faire aboutir le projet. Quand Amélia Simard, chargée de projet et du développement communautaire au sein du comité franco-queer de l'Ouest, a eu connaissance de cette réalisation artistique, ça lui a fait chaud au cœur. Depuis que Meta a changé sa politique de modération de contenu, l'accès aux propos violents sur Internet augmente, notamment pour la communauté trans, avance-t-il, tout en soulignant que les écoles sont des lieux où les propos homophobes sont de plus en plus entendus. Le comité franco-queer de l'Ouest anime des ateliers gratuits auprès des élèves pour partager des ressources et démystifier les mythes liés à la communauté de SLGBTQIA+. Je reconnais l'effort nécessaire pour aborder ces sujets à l'école et en français, concède Amélia Simard. J'encourage les écoles à normaliser ces conversations, surtout à la suite d'un acte homophobe ou transphobe. Plus on normalise, moins on laisse place à la peur et à la haine. À l'école des Sentiers alpins, l'équipe pédagogique ne s'est pas arrêtée là. Le 17 mai, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, les élèves ont défilé dans les rues autour de l'école, munis de pancartes pour défendre les différences et sensibiliser à la bienveillance. C'était « Des élèves de Nelson peignent une murale pour défendre les droits de SLGBTQIA+. » Un texte de Suzanne Lienhardt, paru le 14 juin 2025 dans La Source.